La dernière fois, nous avons accueilli Cathy Langelet. Nous revenions tous de Paris, un week-end très dense. Et Cathy Langelet a voulu nous introduire au fond à la question du grave du désir, ce qui est vraiment quelque chose de très complexe. Alors je me suis dit que cette fois-ci, je vous ferai vraiment un résumé qui n'en est pas un, c'est-à-dire relever 2-3 points de son exposé comme point, je vais dire, d'éclairage, mais que j'avais envie, alors je verrai bien si je le soutiens ou pas ça, de me lancer le défi la fois prochaine, plutôt que de résumer, de prendre 20 minutes, voire 30 minutes maximum au départ pour essayer de redéplier cette question du grave du désir. Donc pour moi, c'est vraiment un gros travail et une découverte. Si je m'en sens capable, la prochaine fois, je vous le propose. Sinon, je vous ferai le résumé classique de la conférence d'aujourd'hui. Mais sachez que pour ce faire, et donc c'est une invitation que je lance à tous, donc Cathy Langelet, finalement, dans les jours qui ont suivi l'exposé ici, a redéplié cette question qui était très complexe et en a fait un texte qui est accessible à tous sur le site du CRIPSA. Donc le CRIPSA, c'est le centre de recherche et d'intervention en psychanalyse qui se trouve en région de Charleroi et dont elle est responsable. Je vous ai mis l'adresse du blog sur lequel le texte se trouve et il est noté en lien aux conférences pas à pas. Donc vous pouvez aller rechercher ce texte, c'est un texte de 10 pages qui redéplie cette question au fond sur lequel on avait un peu buté la fois dernière, et c'est à partir de ça que je voudrais travailler si je vous en parle la prochaine fois. Alors elle nous avait commenté les séances 12 et 13 du séminaire du transfert. Elle a repris au fond la question de l'agalma chez Socrate, donc cet objet caché, peut-on dire, et qu'à travers la demande qu'Agathon adressait à Socrate, eh bien, il y avait deux choses au-delà de cette demande qui se déclinaient d'une part sur le versant de l'amour ou d'autre part sur le versant du désir. Et on verra d'ailleurs que dans les séminaires d'aujourd'hui, on reparle d'une certaine façon de ces deux versants. Et que finalement, lorsqu'on s'adresse à un autre pour demander, il y a quand même dans le chef de celui qui s'adresse cette question, ce qu'évoque, que me veut-il cet autre à qui j'adresse, je m'adresse pour demander. Donc qu'y a-t-il au-delà de la demande ? Elle nous a rappelé aussi, mais donc ce sera à redéplier, qu'on pouvait voir le fantasme comme articulation du désir et de la jouissance, le petit poinçon dans la formule ici signifiant articulation, et elle a clôturé ce sur quoi se terminait le dernier chapitre, c'est-à-dire une critique du contre-transfert. Donc voilà, j'en resterai là pour aujourd'hui, et je vais essayer d'aborder enfin ce graphe, ce fameux graphe, et d'essayer de vous en rendre quelque chose la fois prochaine. Aujourd'hui, nous accueillons Béatrice Brault. Béatrice Brault, qui est psychologue clinicienne à la Maison de la Petite Enfance à Valenciennes, donc juste de l'autre côté de la frontière, mais qui travaille à Mons également et reçoit en tant que psychanalyste à Mons. Alors Béatrice, tu vas nous parler aujourd'hui des chapitres 14 et 15 du séminaire sous le titre général de la séance d'aujourd'hui de oral, anal et génital.
Voilà.
Voilà, tu as la parole.
Merci. Alors, je vous ai mis un petit plan au tableau parce que, effectivement, ce sont deux chapitres très, très, très denses, je dirais. J'ai failli aborder justement la question du graphe et je me suis dit que ça prendrait des heures et des heures, donc je ne l'ai pas fait du tout, donc ça tombe bien puisque Cathy l'a abordé l'autre fois. Mais il y a moyen de traiter ça aussi autrement. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de la demande et du désir dans l'analyse, hein. Je veux dire, ça continue, on en a déjà parlé, mais voilà, on peut en parler encore. Dans un second temps, je vous parlerai de l'articulation dans l'analyse entre la remémoration, la reproduction et l'automatisme de répétition. Donc là, on parlera de Freud. Dans un troisième temps, je parlerai de la demande orale. Dans un quatrième temps, la demande anale, puis la demande génitale et la castration. Voilà, donc j'ai essayé pour ce soir d'épingler cinq points qui sont présents dans ces deux chapitres, et j'ai tenté d'en dégager une certaine articulation logique au fil de ces cinq points. Alors, demande et désir dans l'analyse. Dans ces deux chapitres, Lacan sert de plus près ce que l'on peut appeler le rapport de la demande du sujet avec son désir. Ce dont il s'agit d'ailleurs dans l'analyse, nous dit-il, n'est pas autre chose que la mise au jour de la manifestation du désir du sujet. Chez le sujet qui parle, tout ce qui est dit, tendance naturelle, c'est-à-dire les besoins, a à se situer dans un au-delà et dans un en-deçà de la demande. Dans un au-delà, c'est la demande d'amour. Dans un en-deçà, c'est le désir. Je l'ai représenté par un petit schéma. Je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, au-dessus. Alors, les besoins du sujet doivent passer par les défilés de la demande. La demande n'est donc pas explicite, bien plus qu'implicite, dit Lacan. Elle est cachée pour le sujet. La demande est comme devant être interprétée. C'est là qu'est l'ambiguïté, nous dit Lacan. Ne comprenons donc pas trop vite, dit-il avec insistance. Lorsque nous interprétons la demande dans le cadre de l'analyse, nous répondons bien à la demande inconsciente, mais sur le plan d'un discours concret énoncé par l'analysant. C'est là qu'est le piège, dit une fois de plus Lacan. Il est très insistant sur ces points. Page 239, par exemple. Veillons à ne pas glisser vers cette supposition que le sujet devrait se contenter, se satisfaire de l'éclairage et de la réponse qu'apporte l'analyste. Lacan nous rappelle que c'est là que se produit toujours quelque résistance. La conduite à tenir dans la position de l'analyste n'est donc pas le drive parental, le besoin d'être parent, référence évoquée dans le chapitre précédent d'un auteur anglo-saxon. Je ne vais pas redévelopper la soirée. Donc, pas le drive parental, ni le drive réparatif, le besoin de réparer, comme dans certaines psychothérapies. Si le besoin d'être parent chez l'analyste est présent dans la situation même analytique, comment oser même parler de la situation de transfert, interroge Lacan. Car dans ce cas, le sujet a vraiment en analyse un parent en face de lui. La situation de transfert est donc bien en discordance avec la réalité de la situation analytique du Ink et Knunk, de l'ici et maintenant, du rapport au médecin. Donc il y a bien cette discordance entre la réalité de la situation analytique de l'ici et maintenant dans le transfert. Alors, pour éclairer un petit peu ce point, je me suis inspirée de... J'en ferai quelques citations d'un article de François Le Guil, qui est analyste à l'école de la cause freudienne et qui a consacré un article dans la revue de l'école numéro 22 qui date de 1992 qui s'intitule « Le désir de l'analyste et la décision de l'analysant ». J'en cite quelques extraits que je vais commenter. « La clinique analytique est la clinique de ce qui se dit sur un divan, mais elle dépend aussi bien de celui ou celle qui l'entend. Autrement dit, la décision de faire une analyse, je le cite toujours, est celle du patient, mais cette décision n'est articulable que dans l'accord qu'elle reçoit grâce à l'autorisation donnée par l'analyste à la tâche analysante. On voit bien qu'il y a ici une articulation nécessaire du désir de l'analysant et du désir de l'analyste. Si cette articulation est absente, la tâche analysante est mise à mal. Autre citation. Cette clinique des analystes, celle qu'ils savent transmettre à partir des phénomènes dont ils sont comptables. Donc là, il faut entendre à partir des rêves, des lapsus, des défilés, des signifiants, des actes manqués, etc. Donc cette clinique des analystes, celle qu'ils savent transmettre à partir des phénomènes dont ils sont comptables, et que l'on rassemble autour du concept freudien du transfert, lequel conduit à viser un au-delà de ce que ces phénomènes impliquent. C'est-à-dire, le transfert permet de viser un au-delà de ce qui se dit, de l'ici et maintenant, de la réalité de la situation analytique. L'analyste, poursuit Le Guil, est responsable de bien davantage que de la guérison. Il est responsable de la position subjective de l'analysant. Ce qui le démarque également de la position du psychothérapeute. L'analyste dans la cure, homme ou femme de goût et de responsabilité, dit-il, est aussi homme ou femme de sacrifice. Je commente. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il ne s'agit pas naturellement ni du sacrifice de sa vie, comme dans l'armée, ni de celui de sa jouissance, comme dans l'Église. Sa vie, l'analyste doit seulement la dévouer au don de la parole, écrit Lacan à la fin de son texte du Discours de Rome, texte qu'on trouve dans les autres écrits. Il ajoute, Lacan, « Quant à sa jouissance, il suffit qu'il s'en tienne à carreau. » Le sacrifice auquel l'analyste doit consentir est ce que nous nommons, après Freud, son inconscient. Ce sacrifice est nécessaire s'il ne veut pas que son acte bascule dans la communication suprasensible ou que son intervention s'affaisse au niveau de ce que l'on a nommé le contre-transfert, dont vous avez sûrement parlé les séances précédentes. En d'autres termes, son sacrifice, je le résume comme ça, est donc de ne jamais renoncer à la tâche analysante de son propre inconscient. Analyse finie ou non finie. Voilà, j'espère un petit peu avoir apporté un petit éclairage sur ce qu'il en est de la demande et du désir dans l'analyse. Alors, passons au point 2, que j'ai intitulé donc l'articulation dans l'analyse entre remémoration, reproduction et automatisme de répétition. Freud, dans Au-delà du principe du plaisir, en 1920, reprend cette articulation dont il s'agit dans l'analyse. Après 25 années de travail intensif, dit-il, les buts prochains auxquels tend la technique psychanalytique sont aujourd'hui tout autres qu'au début. Je vais vous lire quelques passages. Tout d'abord, le médecin analyste ne pouvait viser rien d'autre qu'à deviner l'inconscient qui est caché au malade, en rassembler les éléments et le communiquer au moment opportun. La psychanalyse était avant tout un art d'interprétation. Comme la tâche thérapeutique n'était pas pour autant liquidée, on fit aussitôt un pas de plus en se proposant d'obliger le malade à confirmer par ses propres souvenirs la construction de l'analyste. Par cet effort, l'accent se trouva déplacé sur les résistances du malade. Tout l'art fut alors de découvrir ces résistances le plus tôt possible, de les montrer au malade et de les inciter en usant de la suggestion opérant comme transfert. Mais alors, il devint toujours plus clair que le but fixé, rendre conscient l'inconscient, ne pouvait être pleinement atteint même par une telle voie. Le malade ne peut pas se souvenir de tout ce qui est en lui refoulé, et peut-être précisément pas de l'essentiel. Il est bien plutôt obligé de répéter le refoulé comme expérience vécue dans le présent, au lieu de se le remémorer comme un fragment du passé, ce que préférerait le médecin. Cette reproduction qui survient avec une fidélité qu'on n'aurait pas désirée a toujours pour contenu un fragment de la vie sexuelle infantile, donc du complexe d'Œdipe et de ses ramifications. Elle se joue régulièrement dans le domaine du transfert, c'est-à-dire de la relation au médecin, comme ça qu'il parlait à l'époque. La névrose antérieure est maintenant remplacée par une nouvelle névrose, la névrose de transfert. Le médecin s'efforce de limiter le plus possible le domaine de cette névrose de transfert et de pousser le plus de contenu possible dans la voie de la remémoration et d'en abandonner le moins possible à la répétition. En règle générale, le médecin ne peut épargner à l'analyser cette phase de la cure. Il est forcé de lui laisser revivre un certain fragment de sa vie oubliée, mais il doit veiller à ce que le malade garde une certaine capacité de surplomber la situation qui lui permette de reconnaître dans ce qui apparaît comme réalité le reflet renouvelé d'un passé oublié. Je trouve ça très très beau, cette dernière phrase. Hein, qui lui permette donc ce qui apparaît comme réalité, le reflet renouvelé d'un passé oublié. Alors, que retenir de cela par rapport à ce qui nous intéresse? Retenons donc que tout d'abord, l'analyste ne pouvait viser rien d'autre qu'à deviner l'inconscient. C'était vraiment, comme il dit, un art de l'interprétation mêlé très rapidement à l'art de découvrir les résistances en usant de la suggestion. Mais rendre conscient l'inconscient ne pouvait être pleinement atteint. Le malade ne peut pas se souvenir de tout ce qui est en lui refoulé. Il est obligé de répéter le refoulé comme expérience vécue dans le présent au lieu de se le remémorer comme un fragment du passé. Autre point important, il note bien que cette reproduction a toujours pour contenu un fragment de la vie sexuelle infantile qui se joue régulièrement dans le transfert. L'analyste ne peut pas épargner à l'analyser cette phase de la cure, la névrose dite de transfert, où l'analysé revit un certain fragment de sa vie oubliée. Mais l'analyste doit veiller à ce que l'analysé garde une certaine capacité de surplomber la situation, lui permettant de reconnaître ce qui apparaît comme réalité, le reflet renouvelé d'un passé oublié. Je reprends cette phrase. Freud commentera plus loin que la visée dernière de la remémoration rencontre une résistance qui est située dans la fonction inconsciente du moi. La résistance du moi est au service du principe de plaisir. Elle veut éviter le déplaisir que provoquerait la libération du refoulé, tandis que les efforts de l'analyste tendent à obtenir que ce déplaisir soit admis. Mais, interroge Freud, la compulsion de répétition, cette manifestation de force du refoulé, quel est donc son rapport, au principe de plaisir? Il est clair, dit-il, que la majeure partie des expériences que la compulsion de répétition fait revivre ne peut qu'apporter du déplaisir au moi. Mais il s'agit d'un déplaisir qui ne contredit pas le principe de plaisir, c'est-à-dire déplaisir pour un système et en même temps satisfaction pour l'autre. La compulsion de répétition ramène aussi des expériences du passé qui ne comportent aucune possibilité de plaisir. Freud signale d'ailleurs au passage que dans le transfert, les névrosés répètent et font revivre avec beaucoup d'habileté des circonstances non désirées et des situations affectives douloureuses. Ils aspirent parfois à interrompre la cure alors qu'elle est inachevée. Toute cette articulation et évolution de la position de l'analyste dont je viens de vous parler, en reprenant, proposée donc à partir de Freud, c'est-à-dire tout ce qu'il dit au sujet de la remémoration, de la reproduction, l'automatisme de répétition, nous éclaire quant à la complexité de la demande du sujet articulée au désir et son interprétation. Nous saisissons mieux également en quoi cette mise en garde de Lacan quant à la compréhension, mise en garde qui a tout son poids lorsqu'il nous rappelle de ne pas comprendre et interpréter trop vite la demande de l'analysant. Je vais donner un petit exemple clinique pour un peu quitter toutes ces références et ces points théoriques, mais en même temps je trouve très clinique et très finalement assez pragmatique. Donc une petite vignette clinique très, très, assez courte, hein, qui éclaire ce que je viens de vous dire. Donc, il y a quelques années, une dame, enseignante, la quarantaine, 3 enfants, mariée, mais en longue maladie depuis quelques mois pour dépression. Elle n'en disait pas trop grand-chose de sa dépression. Elle vient me trouver, elle demande à faire une analyse car elle a tout essayé. Ce travail démarre un peu avant des congés d'été. Sa plainte principale tourne quand même autour de son couple, de ses difficultés relationnelles avec son mari. Parallèlement, j'entends dès le premier entretien que son mari est d'un soutien précieux pour elle-même. Elle y tient. Elle ne parle pas du tout de le quitter, mais plutôt de continuer à vivre avec, de tenter de s'aménager des temps pour elle. Voilà, elle est en longue maladie. Enfin, quand les enfants rentreraient, lui rentrerait, elle s'aménagerait des temps pour elle. Enfin, voilà, comment faire dans le couple, comment aménager, continuer à faire que ce soit possible, à vivre avec lui, mais s'aménager des temps pour elle. Je pars en congé 3 semaines. En mon absence, elle parle de tout cela à son médecin qui lui prescrit ses anxiolytiques et antidépresseurs depuis des mois. Celui-ci lui conseille en mon absence de ne pas rester sans thérapeute, dit-il, et l'envoie chez un de ses amis qui pratique la thérapie systémicienne. Je dis tout ça puisqu'elle reviendra me voir, cette dame. Alors, elle m'expliquera que ce monsieur lui dira « Mais votre problème, madame, c'est votre mari. Donc, quittez-le. Vous n'aurez plus de problème. » C'est vrai que ça fait rire comme ça. Mais ce qui est moins drôle, évidemment, c'est que celui-ci, dès le deuxième entretien, lui met en main, si je puis dire, lui donne en main le courage pour le faire. Ce qu'elle fera rapidement, en 2-3 semaines. De mon retour, elle m'appelle, puisque nous avions convenu d'un entretien à mon retour, elle m'appelle de l'hôpital psychiatrique. Elle venait depuis une semaine ou deux être hospitalisée pour grave décompensation. Voilà. Donc, nous voyons bien qu'à travers cette vignette clinique qui m'a très marquée, il y a plusieurs années de ça, la demande consistant à se plaindre du mari n'était pas à prendre à la lettre au premier degré dans la situation analytique de l'ici et maintenant, mais plutôt tenir compte du désir sous-jacent à cette demande. Son mari lui est précieux et elle ne peut pas faire sans lui. Voilà, j'en dis pas plus, je vais pas développer le cas, c'est pas le... Voilà. Alors, justement, puisqu'on parle de la demande, comment entendre la demande ? La demande du sujet qui s'adresse à nous, dès la première séance. Cela nous amène justement au point 3, la demande orale. Page 242 du séminaire, Lacan interroge « Qu'est-ce qu'une demande orale ?» Il répond « C'est la demande d'être nourri, qui s'adresse à cet autre, avec un grand A, qui entend, autrement dit, le lieu de l'autre. À la demande d'être nourri répond la demande de se laisser nourrir. L'expérience clinique, notamment la clinique de l'anorexie, met en évidence que lors du premier conflit qui éclate dans la relation de nourrissage entre la mère et l'enfant, c'est-à-dire dans la rencontre de la demande d'être nourri côté enfant, et de la demande de se laisser nourrir côté maternel, dans la rencontre de ces deux demandes, il se manifeste un désir qui déborde la demande. Je vais développer. Autrement dit, l'enfant, en refusant de se laisser nourrir, refuse en quelque sorte de disparaître comme désir du fait d'être satisfait comme demande. On peut encore commenter ça. Rester affamé pour l'enfant, laisser la demande d'être nourri insatisfaite, permet à l'enfant de faire subsister le désir. Il s'agit donc de maintenir envers l'autre, ici maternel, comme le dit Lacan, page 243, il s'agit donc de maintenir envers l'autre ce « tu es le désir », sans tuer le désir, sans abandonner à l'autre le désir comme tel. Alors, ce désir qui déborde la demande, que j'évoquais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est ? La demande orale a un autre sens que la satisfaction de la faim. Elle est, dans son fond, demande sexuelle, nous dit Freud, cannibalisme. Et le cannibalisme a un sens sexuel. Dans les trois essais sur la théorie de la sexualité infantile, Freud rappelle l'omission de l'enfant dans l'étude de la sexualité. Je le cite, chapitre 2. « Il est généralement admis que la pulsion sexuelle fait défaut à l'enfance et ne s'éveille que dans la période de la puberté. C'est là une erreur lourde de conséquences, dit-il. » Je vais lire quelques passages. On trouve, il est vrai, dans la littérature, quelques observations relatives à des actes de sexualité prématurée chez les petits-enfants, érection, masturbation et même simulacre de coït. Je fais ici allusion à ce curieux phénomène d'amnésie qui couvre d'un voile épais les 6 ou 8 premières années de la vie. En effet, pendant ces années, qui n'ont laissé dans notre mémoire que certains fragments de souvenirs incompréhensibles. Toutefois, il est à remarquer que l'amnésie infantile permet de faire un nouveau rapprochement entre l'état mental de l'enfant et celui du névrosé. La sexualité du névrosé a conservé des caractères infantiles. On peut dire que sans l'amnésie infantile, il n'y aurait pas d'amnésie hystérique. C'est l'amnésie infantile qui crée pour chacun de nous, dans l'enfance, une sorte de préhistoire. Il paraît certain que l'enfant apporte à sa naissance des germes de mouvements sexuels qui évoluent, puis subissent une répression progressive. Mais il semble bien que la vie sexuelle de l'enfant, vers la 3e ou 4e année, se manifeste déjà sous une forme qui la rend accessible à l'observation. On va revenir à l'oralité. Le susautement, consacre un ou deux chapitres au susautement. Le susautement qui existe déjà chez le nourrisson et qui peut subsister jusqu'à l'âge adulte et même parfois toute la vie est constitué par un mouvement rythmique et répété des lèvres qui n'a pas pour but l'absorption d'un aliment. Une partie des lèvres, la langue, une autre région de la peau, souvent même le gros orteil, deviennent les objets du susautement. Quand on travaille avec de très jeunes enfants, enfin, tout ça c'est très parlant. La volupté de sucer absorbe toute l'attention de l'enfant, puis l'endort ou peut même amener des réactions motrices, une espèce d'orgasme. Ainsi, les enfants passent-ils souvent du susautement à la masturbation. Il me semble, dit-il, que les corrélations des phénomènes qu'éclaire la psychanalyse nous permettent de dire que le susautement est un acte sexuel. Cette activité sexuelle n'est pas dirigée vers une autre personne. L'enfant se satisfait de son propre corps. Son attitude est auto-érotique. Il semble bien aussi que l'enfant, quand il suce, recherche dans cet acte un plaisir déjà éprouvé et lui revient à la mémoire. On la retrouve, cette mémoire, remémoration. C'est l'activité initiale et essentielle à la vie de l'enfant qui le lui a appris, la succion du sein maternel ou de ce qu'il remplace. Nous dirons que les lèvres de l'enfant ont joué le rôle de zone érogène et que l'excitation causée par l'afflux du lait chaud a provoqué le plaisir. Quand on a vu l'enfant rassasié abandonner le sein, retomber dans les bras de sa mère et les joues rouges, avec un sourire heureux, sans dormir, on ne peut manquer de dire que cette image reste le modèle et l'expression de la satisfaction sexuelle qu'il connaîtra plus tard. mais bientôt le besoin de répéter la satisfaction sexuelle se séparera du besoin de nutrition. Alors bien sûr, vous me direz, dit-il, même tous les enfants ne sucent pas. Il est à supposer que c'est le propre de ceux chez lesquels la sensibilité érogène de la zone labiale est congénitalement fort développée. Si cette sensibilité persiste, l'enfant sera plus tard un amateur de baisers, recherchera les baisers pervers et, devenu homme, il sera prédisposé à être buveur et fumeur. Mais s'il y a refoulement, on lit ça avec le sourire évidemment, mais s'il y a refoulement, il éprouvera le dégoût des aliments et sera sujet à des vomissements hystériques. Le refoulement se portera alors sur l'appétit. La succion nous a fait connaître les trois caractères essentiels, dit-il, de la sexualité infantile. Elle ne connaît pas encore d'objet sexuel, elle est auto-érotique et son but est déterminé par l'activité d'une zone érogène. Je vais arrêter là, mais enfin, je trouve que c'est très intéressant de lire ça. Voilà, conseil d'aller, je n'ai pas tout lu, il y a plusieurs pages consacrées à ça. Donc voilà ce qu'en dit Freud. Mais revenons à Lacan. Enfin, si j'ai parlé de tout ça, c'est parce que Lacan y fait référence. Il n'a pas tout recommenté, mais je trouvais intéressant d'aller se replonger dans ce que dit Freud. Hein. Alors Lacan, lui, que dit-il ? Page 243. Le sujet primitif a à se nourrir du corps de celui qui le nourrit. Car il faut appeler les choses par leur nom. La relation sexuelle, c'est cela, dit-il, par quoi la relation à l'autre débouche dans une union des corps. Et l'union la plus radicale est celle de l'absorption, originelle, où pointe l'horizon du cannibalisme qui caractérise la phase orale, pour ce qu'elle est dans la théorie analytique. Page 253, Lacan dit, dès le cri de la faim, le bout de sein, le mamelon, prend dans l'érotisme humain sa valeur d'agalma, d'objet précieux, devenant le support du plaisir, de la volupté, du mordillement où se perpétue une voracité sublimée. Ça, c'est à retenir. Hein, où se perpétue une voracité sublimée. Dans la nature, chez certaines espèces animales, nous parlons de motions dévoratrices instinctuelles, liées au cycle sexuel. Il s'agit là de réelles dévorations, et non de voracité sublimée, comme chez l'être humain. Roger Caillois, écrivain, sociologue, enfin je ne veux pas dire tout ce qu'il est, parce qu'il a beaucoup dit, écrivain, sociologue, critique littéraire français, s'est intéressé, entre autres, à la sympathie qui paraît régner entre les formes complexes du monde minéral, animal, notamment chez les insectes, et les figures de l'imaginaire humain. Roger Caillois consacre, consacre tout un chapitre à la menthe religieuse dans son livre « Le mythe et l'homme ». Alors, et non, comme signalé dans le séminaire, il y a une erreur, c'est pas dans « Le mythe et le sacré ». Il existe effectivement chez Caillois deux livres, il y a « Le mythe et l'homme » et « L'homme et le sacré ». Et la référence à laquelle fait allusion Lacan, ça se trouve dans le mythe et l'homme. Alors, la menthe religieuse se distingue par cette particularité qui, pendant l'accouplement, accomplit avec ses mandibules la dévoration de l'extrémité céphalique du partenaire mâle. Cela fait penser... C'est très, en même temps, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très agréable à lire. Hein, c'est, enfin, non, mais c'est vrai, ça se lit bien, c'est agréable. C'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques années. Et, voilà. Alors, cela fait penser, dit Lacan, que la menthe religieuse aime mieux ça, la tête de son partenaire. Une préférence donc de la partie par rapport au tout, dit-il. Jugement illustrable, dit-il, par la valeur érotique donnée à l'extrémité mamelonnaire dont nous parlions tout à l'heure. Nous subjectivons ici une jouissance sexuelle chez la menthe religieuse. Est-ce une jouissance de quelque chose en tant qu'elle détruit, qu'elle décapite le partenaire, interroge Lacan. Début de réponse. Ou bien elle jouit là où est l'organe du mâle, ou bien elle jouit ailleurs. Voilà, débrouillez-vous avec ça, c'est le début de sa réponse. Alors, après cette petite diversion, revenons à l'être humain. Sa libido sexuelle chez l'être humain est à entendre comme un surplus qui rend vaine toute satisfaction du besoin. Besoin auquel la libido refuse cette satisfaction pour préserver la fonction du désir. Lacan dit, du seul fait que la tendance de la bouche qui a faim s'exprime, par cette même bouche en une chaîne signifiante, entre en elle cette possibilité de désigner la nourriture qu'elle désire. Hein, je vais la relire. Hein, y a des... Donc, du seul fait que la tendance de la bouche qui a faim s'exprime, par cette même bouche en une chaîne signifiante, entre en elle cette possibilité de désigner la nourriture qu'elle désire. Prudence donc, dit Lacan, concernant nos interprétations au niveau du registre oral, de la demande orale. Car cette demande, quant à la faim et au désir sous-jacent, se forme au niveau du même organe, la bouche. On pourrait tenter d'imposer au sujet que son besoin étant satisfait, il n'a plus qu'à en être content. Je rajoute, il n'a plus qu'à se la boucler, se la fermer. La parole reste tout de même le lieu du désir. Ce n'est qu'à l'intérieur de la demande que l'autre se constitue comme reflet de la faim du sujet. Et le sujet est par là ouvert à devenir objet d'une faim qu'il choisit. Page 260 du séminaire, Lacan dit « Dans la demande orale, la transition est faite de la faim à l'érotisme par la voie d'une préférence, d'un choix. Le sujet vient se placer en tant qu'objet sur le menu à la carte du cannibalisme. » Aussi, ça, hein. Le sujet vient se placer en tant qu'objet sur le menu à la carte du cannibalisme. Bien, je trouve que moi, cette citation, elle illustre tout à fait bien. J'ai repris, hein, la... où est-ce que j'ai mis ça voilà, là-haut. Hein, là... J'ai résumé un petit peu la... ce qu'il y a à retenir concernant la demande orale. Et je trouve que cette phrase, hein, le sujet vient se placer en tant qu'objet sur le menu à la carte du cannibalisme, illustre tout à fait bien ce qui se passe au niveau de la demande orale, à savoir que le sujet est bien objet d'une fin pour l'autre. Dans la demande orale, la demande du sujet est adressée à l'autre et le sujet se fait l'objet du désir de l'autre. Ça, c'est important, même si on ne saisit pas tout, c'est important d'en saisir un petit quelque chose pour comprendre ce qui va se passer dans la demande anale. Hein ? On pourra, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, point 4, la demande anale. Poursuivons donc l'examen des phases dites, dit Lacan, de la migration de la libido sur les zones érogènes, tout en centrant à chaque phase le rapport de la demande et du désir. Alors, dans la demande anale, Lacan pose que, tout comme le sein, l'objet anal, l'excrément, fait partie du monde intérieur du sujet. Dans un premier temps, c'est la rétention qui lui octroie ce statut d'appartenir au monde intérieur. Dans un second temps, lorsque l'enfant consent ensuite à lâcher l'objet, c'est d'avec une partie de lui-même qu'il se sépare. La demande au stade anal, c'est la demande de retenir l'excrément en tant qu'elle fonde quelque chose qui est un désir d'expulser. Mais ce n'est pas si simple, car cette expulsion est aussi bien exigée à une certaine heure par le parent éducateur. Là, il est demandé au sujet de donner quelque chose qui satisfasse l'attente de l'éducateur, de la mère, de la nounou, enfin, voilà, etc. Le caractère de cadeau que prend l'excrément est bien connu et repéré depuis l'origine de l'expérience analytique. Le cadeau excrémentiel fait partie de la thématique la plus antique de l'analyse, dit-il. Le champ de la dialectique anale est le champ véritable de l'oblativité, c'est-à-dire du don à l'autre. Le terme même d'oblativité est un fantasme d'obsessionnel. Tout pour l'autre, dit l'obsessionnel. Au stade anal, le sujet ne satisfait un besoin que pour la satisfaction d'un autre. Lacan rappelle que la satisfaction du pouponnage, du torchage, est d'abord celle de l'autre. C'est donc bien dans la relation anale que l'autre comme tel prend pleinement dominance. Quoi de sexuel alors dans la relation anale? Eh bien, Lacan dit, le sexuel ne peut entrer ici que de façon violente. Que veut-il dire? C'est de la violence sadique qu'il s'agit. Cette pulsion sadique, nous pouvons l'entrevoir antérieurement au stade oral, car, je le cite, la vie est en son fond assimilation dévoratrice comme telle. Au stade oral, c'est le thème de la dévoration qui est situé dans la marge du désir. C'est le thème de la gueule ouverte de la vie, représenté souvent par l'image de la gueule ouverte du crocodile. Et Anne, voilà, disait que tu avais trouvé une reproduction. Voilà. Ça, moi, je ne suis pas allée chercher. Enfin, tu peux de Saint-Georges et le dragon, en plus à Mons, voilà. Donc, voilà. Oui, on peut. Oui, ça peut être la gueule ouverte du dragon aussi. Hein. Voilà. C'est vrai que nous, on est plus habitués à parler de la gueule ouverte du crocodile. Tu voulais en dire un mot ou deux?
Et donc je pense qu'il évoque ce tableau en parlant justement du fait que la demande orale fait appel d'abord à une situation de morcellement originel. Mmh. Et il s'appuie pour illustrer cette question du morcellement originel du sujet sur cette peinture qui va circuler parmi vous, et vous verrez que au pied du cheval et du dragon, c'est surtout là qu'il faut regarder.
Oui, les petits détails. Hein.
Vous verrez les petits détails d'un morcellement. Mmh. Voilà.
Alors, au stade anal, il y a comme un reflet de ce fantasme de la gueule ouverte. Comme un reflet. Le mot reflet revient souvent dans le discours là, de Lacan. C'est-à-dire que l'autre, étant posé comme celui qui doit être offert à cette béance, à cette gueule ouverte, l'autre, en quelque sorte, attend cette souffrance. Nous percevons le caractère violent et sadique de la chose. C'est dans cette relation imaginaire où l'autre, au-dessus du gouffre de la souffrance, que s'institue au niveau anal ce qui n'est plus seulement le pôle sexuel, mais le partenaire sexuel. Nous venons d'évoquer le schème fondamental de la structure du fantasme sado-masochiste. Le point pivot du stade anal est que le sujet est de la merde, dit Lacan. Page 248. Et en plus, il est une demande. Il est donc de la merde qui ne demande qu'à s'éliminer. Enfin, il a le mérite d'être très clair. Hein, Il ajoute, cela est le vrai fondement de toute structure radicale que nous retrouvons dans le fantasme fondamental de l'obsessionnel. Celui-ci, je commente un peu, celui-ci se dévalorise, il met hors de lui tout le jeu de la dialectique érotique, il feint d'en être l'organisateur, c'est sur ce fondement de sa propre élimination qu'il fonde tout ce fantasme. si les choses sont vraiment fixées au point d'identification du sujet au petit a excrémentiel, qu'allons-nous voir ? Interroge Lacan. Eh bien, dit-il, nous verrons que l'obsessionnel peut aller jusqu'à vous faire manger son propre être comme une merde. Il s'offre à l'autre, se fait bouffer par l'autre, éliminé par l'autre. Quelles conséquences alors ? Dans sa demande à l'autre, quelle marge reste-t-il au sujet dans son rapport à l'objet quant au désir ? Je répète, dans sa demande à l'autre, quelle marge reste-t-il au sujet dans son rapport à l'objet quant au désir ? Eh bien, c'est simple, le désir fout le camp. Ou encore, comme le dit Lacan encore plus clairement, il s'en va dans le trou, dans le pot, avec l'objet offert à l'autre. La demande anale se caractérise donc par un renversement complet au bénéfice et à l'initiative de l'autre. J'ai résumé ça en une phrase ou deux, la demande anale. Donc, la demande anale se caractérise donc par un renversement complet. Le renversement complet est à entendre par rapport à ce qui se jouait au niveau de la demande orale, évidemment, où là, on a le sujet qui s'adresse à l'autre. Là, enfin, je vais le recommander, dans la demande anale, voilà, le sujet renverse les choses, où c'est l'autre qui lui demande, et pas lui qui lui demande quelque chose. C'est le point radical où se décide la projection du désir du sujet dans l'autre. Notre façon de dire les choses, tout ça, c'est, finalement, on dit la même chose. L'autre est alors le dépotoir du désir du sujet. Le sujet se désigne alors dans l'objet évacué. C'est le point zéro, dit Lacan, d'une aphanisis, c'est-à-dire d'une disparition du désir. Il repose tout entier sur l'effet de la demande de l'autre. L'autre en décide. La place du désir reste dans la dépendance de la demande de l'autre. Lacan, c'est frappant, quand j'ai relu ces chapitres plusieurs fois, finalement, il insiste fortement, je trouve, sur la phase anale, quant à la question du désir, ce qui est logique, finalement. Je le cite, page 246. « Tant que vous ne repérez pas en ce point de la phase anale, le rapport foncier fondamental du sujet comme désir avec l'objet le plus désagréable, anal, je vous assure que vous n'aurez pas fait grand que vous n'aurez pas fait grand pas dans l'analyse des conditions du désir. » Donc c'est vraiment là, à ce moment-là, qu'il dit que c'est vraiment que là se jouent vraiment pour le sujet les choses au niveau du rapport de la demande et du désir. Ça, c'est capital à saisir. Alors, nous arrivons au point 5. Le stade génital et la castration. Alors, la question du désir au stade génital pourrait donner à penser, nous dit Lacan, qu'il s'agit d'un désir naturel, puisque le point de migration de la libido où nous sommes arrivés touche à l'éveil de la sexualité génitale. Cet éveil, notamment chez le petit garçon, comme le petit Hans de Freud, dont je vous ai déjà longuement parlé les deux dernières années, je me suis dit que j'allais pas remettre ça, cet éveil apparaît au cours du petit frémissement, frétillement de son fait pipi, comme il dit. Phénomène a priori naturel, souvent qualifié, dit Lacan, par les mères en général, de tout à fait cochon, de dégoûtant. C'est donc ce désir qui surgit, dont il ne peut rien en dire, lui qui est dégoûtant. Mais l'autre, la mère entre autres, peut en dire quelque chose. Toutes les mères, dit Lacan, devant le petit robinet du petit Hans ou de quelque autre, feront des réflexions comme « Il est fort bien doué, mon petit, tu auras beaucoup d'enfants, etc. » Le désir naturel a cette caractéristique de ne pouvoir se dire d'aucune façon. Hein? Le désir naturel, on est bien d'accord avec ça, a cette caractéristique de ne pouvoir se dire d'aucune façon. Et c'est pourquoi aucun désir n'est naturel. Car même si le sujet n'en dit pas encore quelque chose, l'autre, lui qui est déjà là, en dit quelque chose. Et là, l'autre est installé et en parle. C'est pourquoi le petit sujet va se demander ce que l'autre lui veut. Pour reprendre, le, je crois que vous avez évoqué le Kevoy là, hein, la dernière fois. Au début, le sujet, il ne peut pas répondre à cela, à ce Kevoy, que veut l'autre, que me veut l'autre. Il va se trouver confronté à ce qu'on appelle à la division entre d'une part cet objet phallique qui devient la marque d'un intérêt privilégié, la galma de l'autre, de sa mère, hein, si on prend la mère de Hans, et d'autre part le ravalement du sujet. Donc il va être confronté à la division entre être l'objet privilégié, la galma de la mère, et aussi le ravalement du sujet lorsqu'il découvre que sa mère, par exemple, désire ailleurs. Hein? C'est ce qui se passe pour le petit Hans, c'est très bien, c'est très clair. Donc, en quelque sorte, il est apprécié comme objet et déprécié comme désir. C'est là autour de quoi vont jouer les contes, dit Lacan, et va tourner l'instauration du registre de l'avoir. L'amour, dit Lacan, c'est donner ce qu'on n'a pas. L'enfant, lui, on a vu, donne ce qu'il a, mais au stade précédent, au stade anal. Au stade génital, il s'agit de donner ce qu'on n'a pas, d'être confronté au manque, d'entrer dans la dialectique de la castration. En 1923, dans un article de Freud, l'organisation génitale infantile, article où il insère le complexe de castration dans l'ensemble de la théorie du développement sexuel, Freud développe tout cela. Au stade phallique, caractérisé par l'absence de représentation psychique du sexe féminin, donc je reprends, au stade phallique, génital, caractérisé par l'absence de représentation psychique du sexe féminin, la différence des sexes s'organise autour de la possession ou non du phallus. On parlait de l'avoir, hein, l'entrée dans le... L'enfant attribuant très souvent un phallus à la mère dans un premier temps. Le complexe de castration est constitué de deux représentations psychiques. D'une part, la reconnaissance de la différence anatomique des sexes. D'autre part, conséquence de ce constat, de cette différenciation, la remémoration ou l'actualisation de la menace de castration pour le garçon, menace entendue ou fantasmée. Il ne faut pas forcément s'imaginer qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait une mère qui la ramène et qui dise « tu vas voir ceci, cela », ou on va dire au docteur un tel qui va te la couper, enfin, comme dans le cas du petit Hans. Ça peut être tout aussi bien fantasmé. Chez la fille, la castration est attribuée à la mère sous la forme d'une privation du pénis. Le complexe d'Œdipe du garçon sombre sous l'effet du complexe de castration. Celui de la fille est rendu possible et est introduit par le complexe de castration. C'est ce que j'ai écrit, je ne sais plus où. Je l'ai casé. Ah oui, voilà, au-dessus. C'est au complexe d'Œdipe, c'est complexe de castration. Donc je redis, je ne fais qu'introduire ça ce soir, puis de toute façon ça fera l'objet des chapitres précédents. Le complexe d'Œdipe du garçon sombre sous l'effet du complexe de castration, celui de la fille est rendu possible et est introduit par le complexe de castration. C'est cette entrée dans le complexe d'Œdipe sous l'effet de la castration, qui conduit la fille à s'éloigner de l'objet maternel pour s'orienter vers le désir du pénis paternel. Lacan, dans le séminaire « La relation d'objet » en 56-57, livre 4, traite du concept de castration par le biais de la relecture du petit Hans. Concept de castration qu'il situe dans la perspective de sa théorie du signifiant. Car du point de vue de l'objet, la castration ne peut être que la représentation symbolique de la menace de disparition. Elle ne concerne pas le pénis réel, mais le phallus, objet imaginaire. J'en dis pas plus, tout ça sera certainement commenté les prochaines séances. Ce déplacement permet à Lacan d'établir une absence de différence entre la fille et le garçon, du point de vue du déroulement de l'Œdipe, l'un et l'autre désirant dans un premier temps être le phallus de la mère. Ça, c'est important à retenir. Donc, pour résumer un petit peu, épingler quelques points ou quelques temps de la demande génitale, dans la demande génitale, le sujet se demande ce que l'autre lui veut, le kevoy. Il désire connaître le désir de l'autre. On peut dire que c'est un désir de désir. Il trouvera sa réponse dans le désir de l'autre, mais en se confrontant à sa propre division, puisque, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, premier temps, il se vit en tant que sujet désiré en tant qu'objet de l'autre, la galma de la mère. Deuxième temps, il réalise qu'il est aussi un sujet non désiré par l'autre manquant, par la mère manquante, désirant ailleurs. L'autre manquant qu'on symbolise avec un grand A que nous barrons. On peut tout simplement déjà entendre ça, la mère manquante, elle désire ailleurs. C'est une façon de comprendre ce grand A barré. Et donc ici, on peut le rajouter, j'ai oublié de mettre, le sujet se trouve divisé, hein, qu'on peut mettre le sujet barré, divisé, manquant lui aussi, et qui est confronté aussi au manque de l'autre, manque dans l'autre. Voilà.
Bien, merci beaucoup pour le parcours ici des deux chapitres qui étaient effectivement fort denses. Je vais peut-être, comme d'habitude, lancer une ou deux questions, ce qui vous permet de réfléchir au vôtre de questions. D'abord, dans les textes que tu as lus, que tu as amenés, j'ai noté un petit commentaire. J'ai écrit « c'est fort quand même » dans ce que j'ai entendu. Quand tu lis le Guil et qui dit « l'analyste est responsable de la position subjective de l'analysant ». Voilà, alors moi, ça, c'est une phrase que je trouve d'une... que je peux entendre, mais elle est très radicale. Voilà, alors je me demandais si tu pouvais peut-être faire un... Enfin, pris au pied de la lettre, elle est vraiment très radicale. Donc ça, c'était peut-être une première question. Une autre chose, peut-être assez simple, c'est pourquoi Lacan... insiste en reprenant Freud sur la nécessité que le sujet finalement en analyse soit bien en position de surplomber, donc d'avoir la une espèce de maîtrise, en tout cas un décalage par rapport aux situations finalement répétées, reconstruite, enfin non, justement pas reconstruite. C'est dans le côté qui n'est pas de la remémoration et de la reconstruction, où là c'est plus une appropriation du sujet en tant qu'il reconstruit dans la remémoration. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu. Alors que dans la répétition, il s'agit d'avoir ce côté de surplomber cette situation.
Au fond, ces deux questions se rejoignent. Une côté versant Freud, une autre côté plus versant à Lacanien qui parle. C'est comme ça que j'entends tes questions. Bien sûr, si on commence par Freud, entre se remémorer un souvenir et la répétition, revivre quelque chose, qui souvent, on dit dans le transfert, on est amené à revivre quand même des choses, très souvent, du côté du déplaisir, du désagréable, ce qui a posé fortement question dans la vie du sujet quand même. Donc, à partir du moment où le sujet est dans la répétition, il y est, quoi. Il n'est pas simplement dans la mémoire, le passé qu'il réévoque. Il y est. Il y est, donc, il s'agit de... il faut faire attention que l'analysant puisse surplomber ça, c'est-à-dire qu'il y est... j'ai envie de dire, ils y sont tous les deux, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a le transfert. Il y a l'analyse qui y est, de sa personne, mais il y a l'analysant qui y est aussi de sa personne. Je crois que c'est comme ça, quand on dit que quand il y a répétition, il y a vraiment quelque chose qui se rejoue. C'est quelque chose au-delà d'un simple souvenir évoqué.
Y compris peut-être eu égard à des mises en acte éventuelles possibles, remises en acte éventuelles possibles.
Et c'est d'ailleurs lorsqu'il développe ces passages, il dit très souvent, c'est là qu'il parle ce qui se passe au niveau des résistances. Parfois, l'analysant peut dire « j'arrête l'analyse ». Tout à fait. Alors, je pense que dans ce que dit Le Guil... ça m'échappe. Redis-moi ça, je peux la retrouver. Que l'analyste...
Est responsable de la position subjective de l'analysant.
Voilà. J'ai envie de dire, on peut entendre aussi, c'est à entendre aussi au niveau de la direction de la cure. Dans ce qui va se passer dans le déroulé de la cure, dans ce que le sujet va être amené à répéter aussi, on peut reprendre ça du côté, comme tu disais tout à l'heure, de ce qui se joue au niveau de la répétition, quels effets cela aura sur le sujet, sur l'analysant. Comment va-t-il se sortir de ça? Comment va-t-il, pour parler plus en lacanien, symptomatiser tout ça? C'est là où je situe, où Le Guil, je pense, situe la responsabilité de l'analyse quant à la position subjective du sujet. J'essaie de dire ça assez simplement pour pas trop empoigner le jargon lacanien, mais au fond, c'est ça. C'est tout à fait en rapport avec la direction de la cure. Il en parle, il en dit deux, trois mots plus loin. J'ai juste épinglé quelques phrases, c'est un article assez long. Tout ça est tout à fait en rapport, je pense, avec la direction de la cure. C'est pour ça que tes deux questions, je trouve ça intéressant, parce que finalement, elles tournent autour, j'entends qu'elles tournent autour de la même question, plus versant un peu comme freudien avec toutes ces histoires de remémoration ça, et plus versant plus lacanien tel que Le Guil en parle. Et ce qui est à saisir, c'est que vraiment une analyse, ça se joue à deux, via le transfert évidemment.
Vous avez des questions?
Alors moi, c'est vrai que cet article, en attendant, je commente un peu, cet article de Le Guil, quand je l'ai relu, je suis retombée dessus un peu par hasard l'autre jour, comme ça, quand il parle du sacrifice, même, il fait fort, là, je trouve. c'est encore un autre... au début, quand j'ai lu ça, j'avais pourtant lu, mais quand on le relit comme ça des années après, enfin, on comprend mieux. Quand j'ai lu ça, en 92, moi, j'entrais en analyse. Quand on lit ça des années après, oui, ça n'a pas forcément le même poids.
C'est aussi une façon de dire cette position de sacrifice à ne pas faire parler son inconscient, au fond. C'est une autre façon de dire ce qu'il a dit avant, de ne pas se situer dans la relation à l'analysant sur le versant imaginaire.
Dualité imaginaire, tout à fait.
Dans une position qui serait de compréhension ou de ce que certains appellent d'intersubjectivité.
Voilà. Hein, l'exemple que j'ai donné, moi, tout de suite, il m'est revenu. J'ai dit, au fond, ça m'a... Ça m'avait fort troublé. Je me suis dit, mais enfin, c'est pas parce qu'on se plaint à ce moment-là. Je sais pas, une mère peut se plaindre de son enfant ou un père. Qu'est-ce qu'il est difficile, j'en ai marre. C'est pas pour ça qu'on dit, bon, on fait plus de l'enfant. Enfin, je caricature. Enfin, une mère qui me disait récemment, mais pourquoi je me plains de mon enfant? Vous allez croire que je l'aime pas. Je dis, pour rien à voir avec tout ça. C'est pas une question de. Voilà, c'est pas. Hein. C'est... Oui.
Oui, le collègue aurait pu dire « placez votre enfant
si ». Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Non,
si
mais...
Si on s'inspire de la vignette clinique...
Oui, tout à fait, oui.
C'est à la caricature, bien sûr, mais c'est sûr.
Oui.
Alors, peut-être...
Bah, Lacan ne cesse, dans ces deux chapitres, de dire « attention, ne pas comprendre ». Enfin, il est très insistant, ne comprenez pas trop vite... Cesser de comprendre trop vite, ceux qui comprennent tout trop vite. Enfin bon, il est très très insistant par rapport.
Et en même temps, voilà.
Ce qui me semble marquant aussi dans ces chapitres, c'est que tu évoques la question d'un déplacement. Ça va bien au-delà de dire à un moment un sens latent pourrait être mis au jour d'une façon presque univoque, claire, par rapport au sens manifeste de la demande. Il dit à un moment que même l'interprétation doit être maniée avec prudence. Mmh. Dès que des mots sont mis sur quelque chose, ça peut en soi causer résistance. Donc c'est bien au-delà de découvrir une demande qui serait latente et où l'analyste aurait dit « ça y est, j'ai compris la demande latente ». Ce n'est pas ça non plus.
Pour revenir sur l'interprétation dont tu dis, même par rapport aux interprétations, effectivement, il ne s'agit pas de... L'analyste, j'ai envie de dire, n'a pas à donner l'interprétation. C'est après coup, enfin, dans l'analyse, c'est après coup que les choses font interprétation. Et c'est l'analysant qui revient avec ça. Et qui vient, voilà, il y a ceci, il y a cela. Quand vous avez dit ça, c'est pas forcément que l'analyste a donné une interprétation de ce que le sujet vient de dire. L'analyste dit quelque chose, éventuellement, de ce que le sujet vient de dire, ce n'est pas forcément... Enfin, l'analyste ne pense pas forcément, et même à la rigueur, enfin, je trouve que c'est mieux, n'a pas à faire une interprétation. C'est éventuellement au fil du déroulé de l'analyse que certaines choses vont faire interprétation pour l'analysant, et que l'analysant va dire ceci, et que l'analyste, après coup, va dire, ben voilà, ça aussi, c'était donc... L'analysant en a fait une interprétation. C'est ce qui... Enfin, je trouve ça, c'est important à saisir, hein. Finalement, c'est l'analysant au travail, mais au travail parce que l'analyse lui permet cette tâche analysante. Il ne s'agit pas non plus d'être muet tout le temps, de ne rien dire. Enfin, on parlait de ces journées l'autre jour à Paris, enfin, tous les témoignages qu'on a entendus, bon, ça peut être un geste, ça peut être un mot repris, ça peut être... Il ne s'agit pas de faire tout un blabla pendant des heures sur « je vais vous expliquer tout le machin, pourquoi ceci, cela », pas du tout. Enfin, je caricature, mais je crois que c'est vraiment... c'est pas quelque chose qui se comprend, je trouve, au bout d'un an, deux ans d'analyse. C'est pas quelque chose comme ça, non. C'est quelque chose vraiment qui prend sens quand on l'acte pour soi-même.